Chapitre 14. 13 août, midi 32.
Ne crie pas, je ne suis pas de la police. Je suis là pour te sauver, crois-moi.
J'ai eu le temps de voir que le type était grand, maigre, vêtu d'un t-shirt, d'un pantalon et d'une casquette, avant qu'il m'entraîne dans une cave humide qui sent le moisi. Ça ne me rassure pas du tout d'apprendre que ce n'est pas un flic. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il doit me sentir nerveux. Il n'ôte pas sa main de ma bouche et poursuit ses explications. Écoute. Je fais partie d'un collectif qui se bat contre Trace. Ton cas est exemplaire. Nos pirates informatiques sont branchés sur les mêmes sources et les mêmes vidéos que celles de la police, et on a presque par hasard zoomé sur le type qui sortait d'une pizzeria vêtu d'une veste de cuir, en cuir beaucoup trop grande pour lui. Un coup de chance. On se doutait que c'était toi. Et voilà comment on a su où tu étais. On veut tous que tu restes en liberté jusqu'à 15 heures. Tu ne le sais peut-être pas, mais à 15 heures, c'est l'heure à laquelle tu es censé commettre ton crime. Il ôte enfin sa main et relâche son étreinte. Je me tourne vers lui, stupéfait de connaître désormais l'heure du meurtre supposé. Le type qui a les cheveux longs rassemblés en catogan et le menton caché par une barbe fournie, genre hipster branché, me révèle même le lieu, le 3e arrondissement. C'est vaste, et ça me donne le vertige. Je tremble de tous mes membres. Durant quelques secondes, j'en arrive même à avoir peur de moi-même. Je finis par me ressaisir pour bredouiller. Qu'est-ce que je dois faire ?
Te rendre dans le 3e arrondissement.
Quoi ? Sur le lieu du crime ? Tu sais très bien que ce crime n'aura pas lieu. Tu n'as rien d'un criminel. Tu vas te cacher dans une maison du 3e arrondissement en attendant tranquillement que l'heure passe. Je te suivrai discrètement d'abord, pour qu'on ne te repère pas avec moi, puis je te rejoindrai dans la maison, caméra au point. Je vais te filmer jusqu'à 16 heures pour être tranquille. À ce moment-là, on t'expose au monde, comme n'ayant commis aucun crime, alors que tu te trouvais pourtant dans le périmètre du crime supposé. Et on décrédibilise complètement leur foutu programme.
Oui, où ça ? Dans quelle maison est-ce que je peux me cacher ?
D'abord, tu vas enfiler ces nouveaux vêtements que je t'ai apportés. Il sort de son sac à dos des frusques de petits bourges, chemisette à manches courtes et carreaux fins, et bermuda bleu marine.
Et je ne mettrai jamais ça, hein, vous êtes fou.
N'a pas le choix, mon gars. Avec ça, les caméras n'y verront que du feu. Ensuite, tu viens avec moi. On va sortir d'ici par un accès qui donne sur une cour. On empruntera la sortie comme de simples riverains. Puis, je t'indiquerai comment te rendre dans cette maison dont je t'ai parlé. Elle est abandonnée au bord de la voie de chemin de fer. On l'appelle la maison hantée.
Ah non, pas ça. Vous ne connaissez pas un autre endroit ?
Thomas, tu sais bien que les fantômes n'existent pas. C'est quelque chose de beaucoup plus réel que tu dois craindre. On n'a pas le choix. Tous les membres du collectif sont surveillés de près ou de loin. C'est l'un d'eux. Chez l'un d'eux, tu serais aussi découvert. Et crois-moi, l'objectif des flics, c'est bien de t'attraper avant 15 heures. Je soupire, mais je me plie à ses instructions. En effet, je n'ai pas le choix. Le type m'entraîne sur le vieux port, en pleine manifestation contre je ne sais quoi. Ils font un tel raffut que je comprends rien. Et puis, je ne lâche pas mon guide des yeux.
Évite le panier et surtout la place de l'Anche,
me crie-t-il dans l'oreille. C'est bourré de flics dans le coin. À cause de la proximité du commissariat de l'évêché. Emprunte plutôt les petites rues transversales, de la rue de la République jusqu'à la porte d'Aix, puis le boulevard Charles-Nédélec. Contourne la gare Saint-Charles, puis sur la voie ferrée par la rue Honorat jusqu'à la maison, qui n'abrite aucun fantôme, ok ? Tiens, prends cette montre. Tu seras soulagé quand 15 heures seront passées. J'attache la montre à mon poignet tout en acquiesçant. Ça fait du bien de savoir qu'il y a au moins une personne dans cette ville qui est sûre et je suis et je resterai innocent. Qui est sûr que je suis et que je resterai innocent. Alors je hoche la tête et je jette autour de moi un regard soucieux.
Pas d'inquiétude, tu vas t'en sortir, me souffle l'homme avant de disparaître dans la foule.
Je fais quelques pas avec la tête qui tourne. Quelle direction prendre ? Je ne trouve aucun repère, perdu dans cette masse de gens. C'est alors que je me trouve nez à nez, avec un portrait de moi. Dessous, il est inscrit « Innocent !»
ce qui me rassure un peu. Je fais l'effort de décrypter les cris et les slogans. Ces gens réclament la libération d'individus déjà arrêtés et la fin des poursuites contre moi. Cette manifestation est organisée pour moi. Enfin, contre trace. Le monde n'est pas complètement fou. Je suis entouré de personnes bienveillantes à mon égard. Il n'empêche que je dois rester discret pour que le plan fonctionne. Rassuré, je me ressaisis et je réalise que je me trouve sous la grande verrière, sur le quai du Vieux-Port. Au moins, voilà un repère valable. Je cours en direction du café La Samaritaine, fendant la foule, puis m'engouffre dans la rue Bonneterie, quasiment déserte de bout en bout, ce qui me tranquillise légèrement. Les ordures n'ont toujours pas été ramassées et des effluves désagréables s'échappent des montagnes de sacs en plastique noir. Soudain, un cri me fait sursauter. « Thomas, Thomas !» Je ne parviens pas à maîtriser la panique qui me gagne. Je me rends compte qu'il s'agit de Léo, mon voisin de 4 ans, qui fait des bonds devant l'Hôtel Dieu. Sa maman porte un cabas d'un côté et tient son petit garçon de l'autre en le sermonnant pour qu'il se calme. Mon cœur s'emballe. Si la mère me repère, elle est capable d'appeler les flics. Je pique un sprint sous les arcades de la rue Mairie jusqu'à la rue de la République, comme on l'appelle rapidement, rue de la République, quand on est marseillais. Je crois que ma voisine n'a pas eu le temps de lever les yeux. Et de toute façon, vu mon accoutrement, elle pensera certainement que son fils m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Les battements de mon cœur ralentissent, et je ne transpire plus autant que tout à l'heure, signe que ma panique s'amenuise. J'adopte une démarche plus sereine pour traverser le grand rond-point de la porte d'Aix. Les baies vitrées de la gare Saint-Charles se profilent en haut de la rue qui grimpe face à moi. Elles réfléchissent les rayons du soleil qui m'éblouissent.